Bien, nous allons ouvrir la parole de Dieu dans la lettre aux Hébreux, chapitre 6. Comme j'ai dit tout à l'heure, comme il y a plusieurs absents, on fait une pause dans la lettre aux Romains et on fait une petite, un petit crochet par la lettre aux Hébreux. Mais vous allez voir qu'on va surtout nous attarder sur la fin du chapitre, à partir du verset 13, qui parle encore une fois de la promesse faite à Abraham et à sa postérité, que nous avons un thème que nous avons vu dans Romains, chapitre 4, en particulier. Mais on va lire tout le chapitre 6 pour se mettre un peu dans le contexte romain, Hébreux, chapitre 6. Et nous lisons donc à partir du premier verset. Et l'auteur est en train de développer son argumentation pour prouver, c'est intéressant que l'on ait lu ce passage dans l'Ancien Testament, il est en train de prouver que Christ est meilleur. Tout ce qui était dans l'Ancien Testament, en fait, c'était les ombres. La réalité, nous l'avons en Christ. Il continue donc, il continue son argumentation. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Lorsqu'une terre abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ceux qui vous concernent des choses meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit « Certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. » Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse, l'immuabilité de sa résolution intervint par un serment, afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Et jusque-là, la lecture de la parole de Dieu. Cette lettre aux Hébreux est assez intéressante dans le sens qu'elle ressemble en fait à un sermon. À la fin, au chapitre 13, l'auteur parle même de paroles d'exhortation. Parole d'encouragement, car je vous ai écrit brièvement. C'est 13 chapitres, mais c'est quand même brièvement. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, l'auteur couvre l'Ancien Testament. Et si on pouvait résumer cette lettre par un seul mot, ce serait le terme « meilleur ». L'Ancien Testament a des sacrifices. Nous avons un meilleur sacrifice qui est Jésus-Christ. L'Ancien Testament avait un temple. Nous avons un meilleur temple qui est Christ. C'est là où on rencontre Dieu. Il y avait les sacrificateurs, nous avons un meilleur sacrificateur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. L'Ancien Testament, dira l'auteur de cette lettre, avait des ombres. les ombres qui annonçaient la réalité à venir. La réalité, elle est venue. La réalité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il parle donc de paroles d'exhortation. Le terme en grec, c'est paraklesis. Et ça, c'est un terme qui nous renvoie à la description de l'Esprit-Saint, qui est décrit comme le paraclète. Et quand Jésus parle de ce que l'Esprit fera, par exemple en Jean 16, verset 8, il dit « Quand le paraclète, quand l'Esprit sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Mais il va aussi dire que ce même paraclète, ce même Esprit apporte le réconfort, la consolation quand il dirige nos regards vers le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que nos traductions, la plupart de nos traductions, traduisent ce terme paraclète par consolateur. L'Esprit est le consolateur. Il convainc et il console. Et c'est ce qu'on a en fait dans cette lettre. Il fait les deux choses. Il va convaincre, mais il va aussi consoler. À la fin du chapitre 5, on l'a pas lu, mais l'auteur, inspiré par l'Esprit de Dieu, travaille les consciences. Il dit, mais il vient de leur parler du Seigneur Jésus-Christ qui est supérieur, qui est meilleur que les souverains sacrificateurs de l'Ancien Testament. Et à partir de verset 11, il dit, mais nous avons beaucoup à dire là-dessus, des choses difficiles à expliquer, parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes devenus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Et il reprend ses lecteurs. Il dit, il y a des choses dont je ne devrais même pas vous dire, normalement vous devriez connaître ces choses-là. Et il avertit ses lecteurs au début du chapitre 6, c'est un passage qui est difficile, on ne va pas s'attarder dessus, il y a plusieurs explications. Mais en gros, il est en train de dire, vous pouvez connaître des expériences merveilleuses, des expériences spirituelles, sans que ces expériences ne garantissent que vous soyez chrétien. Il parle de ceux qui goûtent, qui ont eu part au Saint-Esprit et puis qui sont tombés. Et puis il termine ce passage en parlant de cette terre qui produit des épines, des chardons, qui est réprouvée, qui est maudite, à laquelle on va mettre le feu. Et quand on lit cela, on se dit, est-ce qu'on va pouvoir encaisser encore davantage ? C'est des paroles qui sont dures. Et ensuite, dans la deuxième partie du chapitre, il va apporter ce réconfort, des paroles d'encouragement. Maintenant que vous êtes au plus bas, vous allez vraiment apprécier les richesses de l'Évangile, de la grâce de Dieu. Et c'est ce qu'on veut voir ce matin. On veut mettre l'accent sur cette deuxième partie, en particulier à partir du verset 13, et diviser ce passage en trois points. Remarquez trois choses que l'auteur soulève. La première, c'est qu'il nous parle du dessein de Dieu, du plan de Dieu qui est inchangeable. Versets 13 et 14. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et il dit « Certainement, je te bénirai et je te multiplierai, et je multiplierai ta postérité. » L'auteur, comme j'ai dit, nous renvoie à cette alliance faite avec Abraham, quelque chose qu'on a déjà vu en Romains, chapitre 4, cette alliance qui est accomplie dans la postérité d'Abraham, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Je te bénirai et je te multiplierai. Mais si on va plus loin, si on va jusqu'au verset 17, on notera que l'auteur décrit cette alliance, comme cette promesse, comme quelque chose d'inchangeable, d'immuable. Verset 17, c'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse, l'immuabilité de sa résolution. Il intervient par un serment. L'auteur veut encourager ses lecteurs. Il veut nous encourager en nous rappelant que l'un des plus grands encouragements dans l'Évangile, c'est que le plan de Dieu est inchangeable. Son plan ne change pas. Son désir de garder la promesse de bénir son peuple dans sa postérité, dans le Seigneur Jésus-Christ, cette promesse ne change pas. Elle est immuable. Bien sûr, il y a eu le premier accomplissement dans Isaac et dans la descendance, mais son accomplissement est surtout venu dans la venue du Seigneur Jésus-Christ. Paul rappelle, par exemple, en Galates chapitre 3, verset 16, « Les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit « et aux descendances » comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme il s'agit d'une seule, à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. » Ça, c'est Galates 3, verset 16. Et pour nous, donc, il est important de savoir que le plan de Dieu, le dessein de Dieu, ne change pas. Abraham a dû apprendre cette leçon. L'auteur parle de la persévérance, de la patience d'Abraham. Mais Abraham, si on se rappelle, si on lit le récit de Genèse, voulait que Dieu avance dans l'accomplissement de sa promesse. Et parfois, c'est la même chose pour nous. On a l'impression que Dieu n'avance pas assez vite dans nos vies ou dans nos circonstances. Et il faut revenir sans arrêt à cette réalité que Dieu est déterminé à accomplir son dessein. Il est déterminé à accomplir cette promesse de bénir son peuple en Jésus-Christ. Et c'est une promesse, c'est un plan qui ne change pas. Il y a deux mots dans le Nouveau Testament qui traduisent, qui parlent de patience ou de persévérance. Et ici, l'auteur utilise un terme qui traduit l'idée de quelqu'un qui est capable d'accepter certaines frustrations et de voir au travers de ces frustrations, même quand ses désirs ne sont pas satisfaits. Je ne sais pas quelle est votre mesure, votre degré de patience, de persévérance. Beaucoup de personnes disent qu'elles sont patientes jusqu'au jour où elles sont frustrées. Et dès qu'il y a la frustration, la patience, elle n'est plus là. Hein? Mais l'essence même de la patience, c'est d'être capable d'accepter, de supporter les frustrations, de voir au-delà des frustrations. Et en fait, on a un grand paradoxe ici dans la relation entre Dieu et nous. Dieu veut nous frustrer. Parce que s'il ne le fait pas, tôt ou tard, on va davantage s'appuyer sur nos désirs, notre volonté pour notre vie, plutôt que de s'en remettre et de lui faire confiance à sa volonté pour notre vie. C'est ce que Abraham a dû apprendre. Qu'est-ce que Dieu était supposé de faire selon Abraham? C'était de donner un enfant à sa femme Sarah. Et l'enfant ne venait pas. Abraham était frustré. Dieu n'était pas en train de faire ce qu'il était censé de faire selon Abraham. Abraham a détourné les regards de cette promesse. Et il a cherché à amener la solution, vous le savez, en ayant un enfant avec la servante de Sarah, avec Agar, qui a donné naissance à Ismaël, avec toutes les conséquences qui s'en suivent. Ou pour utiliser une image sportive, je sais que l'équipe de football américain de Chalon a joué la semaine dernière, il me semble. Pour prendre une image de football américain, c'est comme si le joueur était davantage intéressé par le fait de traverser la ligne avant d'attraper la balle. Comme s'il était davantage intéressé par le fait d'être dans la zone de touchdown, plutôt que d'être intéressé par le fait d'attraper la balle qui lui était lancée. Et c'est la même chose, Abraham était davantage intéressé à recevoir la bénédiction tout de suite, plutôt que d'attraper la provision que Dieu lui lançait dans sa providence. C'est la même chose. Pour nous, quand Dieu ne semble pas à l'œuvre dans nos vies, comment est-ce qu'on peut surmonter cette frustration? En regardant ici, Dieu a annoncé son dessein, il a prononcé cette promesse de bénédiction à Abraham, cette promesse qui est accomplie dans le Seigneur Jésus-Christ. Et si nous sommes unis à Christ par la foi, nous sommes aussi les héritiers de cette promesse, les co-héritiers avec Christ. Cette promesse est nous, son peuple, ce peuple qui est formé de gens qui sont de toute nation, de toute tribu, de toute langue. Cette promesse, ce peuple qui est béni dans la postérité d'Abraham, qui est le Seigneur Jésus-Christ. On peut se reposer sur cette promesse, sur cette réalité. Le plan de Dieu, le dessein de Dieu de bénir son peuple est une promesse qui est immuable. Elle ne change pas. Mais ce n'est pas la première, ce n'est pas la seule chose. Il y a une deuxième chose. Paul, l'apôtre, l'auteur, je dis Paul, mais parce qu'on est dans Romain, on ne sait pas qui est l'auteur de l'hébreu, de la lettre aux Hébreux. L'auteur dit une deuxième chose. Il nous parle d'un acte qui est impossible pour Dieu. Toujours en parlant de la vie d'Abraham, un des versets connus se trouve dans Genèse 18. Mais si on lit c'est le verset 14, mais si on lit le passage en entier, à partir du verset 10, quand ces personnes qui étaient le Seigneur Jésus-Christ et des anges sont venues auprès d'Abraham pour lui annoncer la promesse d'un fils qui allait venir. Nous disons, l'un d'entre eux dit, « Je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, « Maintenant que je suis vieille, aurai-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. » L'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, « Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille ?» Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel ?» Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Il n'y a rien d'impossible pour Dieu. Et c'est une chose dont nous pouvons être certains. Il n'y a rien d'impossible. Et pourtant, l'auteur ici dit qu'il y a deux choses qui sont impossibles pour Dieu. Verset 18. Par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. Dieu ne peut pas mentir. Dieu ne peut pas mentir au sujet de la promesse, au sujet de l'alliance faite à Abraham et sa postérité. Nous, dans notre expérience, malheureusement, nous sommes conscients que nous revenons régulièrement sur la parole que nous avons donnée. Quelqu'un vient vers nous dans une situation et nous demande de prier pour elle. On va dire, oui, je vais prier pour elle. Et puis, quelques jours plus tard, elle revient vers nous en nous remerciant d'avoir prié pour elle. Et c'est là que on est dans la confusion, parce qu'on a oublié, parce qu'on a dit, mais on l'a pas fait. Notre mémoire est tellement faillible. Et au tribunal, les juges veulent entendre la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Mais ils ne nous font pas entièrement confiance. Et donc, ils nous demandent de prêter serment. On veut vous entendre, oui, mais vous devez prêter serment. Ils veulent une double sécurité, si on pouvait dire, pour notre témoignage. Et ici, on a quelque chose de remarquable. Dieu ne ment jamais. Il ne peut pas mentir. Il ne revient jamais sur ses promesses. Dieu donne sa promesse, mais en plus, il est prêt à prêter serment. Il intervient par un serment. À une certaine époque, on prêtait serment sur la Bible, parce qu'on la considérait comme étant l'autorité suprême sur notre vie. Dieu prête serment. Mais sur quoi Dieu prête-t-il serment? Il prête serment sur sa propre existence. Il ne renoncera jamais à garder sa promesse de bénir son peuple. Dieu dit en fait ici, je cesserai d'exister plutôt que de cesser de bénir mon peuple. Et l'auteur a vu cela dans le récit de la Genèse, Genèse chapitre 15. On voit la façon dramatique dont Dieu a utilisé pour imprimer cela dans le cœur d'Abraham. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce récit. Dans une nuit, Dieu appelle Abraham à prendre des animaux et à les couper par le milieu. Et en fait, aller mettre chaque moitié d'un côté en face de l'autre et en faire deux rangées. Et dans la nuit, des flammes sont passées au milieu de ces morceaux. Dans l'Ancien Testament, on ne disait pas faire une alliance, mais on disait couper une alliance. On coupait, l'expression c'est couper une alliance. Et le symbolisme de la lumière qui passe au milieu de ces morceaux, c'est Dieu qui passe entre ces morceaux de ces animaux qui ont été mis à mort. Et symboliquement, il dit à Abraham, si je ne garde pas ma promesse de bénir mon peuple dans la postérité, dans ta postérité, alors que je sois comme ces animaux démembrés, alors que je sois comme ces animaux qui ont été mis à mort. Dieu ne peut pas mentir dans sa promesse. Verset 18, l'auteur nous dit, afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Dieu nous a donné sa promesse de nous bénir dans la postérité d'Abraham qui est Jésus-Christ. Sa promesse est suffisante. Mais il nous donne aussi un serment dans lequel il ne peut pas mentir. Il ne peut pas mentir dans sa promesse, mais il ne peut pas mentir non plus dans le serment. Et cela, il le fait, non pas pour lui-même, mais il le fait pour nous. Versets 17 et 18, c'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, il intervient par un serment, afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Dieu n'avait pas besoin de le faire pour lui-même. Il n'avait pas besoin de le faire pour les anges. Il n'avait aucun besoin de le faire pour aucune autre créature céleste. Mais l'auteur ici voit la bonté, la générosité de Dieu, le dévouement de Dieu, son amour, sa compassion en tant que Dieu sauveur. Dieu va tout faire pour nous rassurer qu'il va garder son alliance, qu'il va garder sa promesse. Sa détermination de bénir le peuple dans la descendance d'Abraham, à savoir Jésus-Christ, sa détermination est aussi certaine que son existence. Parce qu'en quelque sorte, il a mis en jeu, entre guillemets, son existence. Et il veut que nous le sachions. Il a juré par lui-même, nous dit l'auteur au verset 13. Il a juré par lui-même. Parfois, on peut se douter du dévouement de Dieu pour nous. Alors, il faut revenir à ce passage, il faut revenir à des passages parallèles, à ce serment de Dieu. Dieu a mis en jeu, si on peut parler ainsi, son existence. Il va tenir sa promesse. Sa détermination est aussi certaine que son existence. Dieu tient sa promesse pour son peuple en Jésus-Christ, la postérité d'Abraham. Dieu a un plan qui ne change pas, un plan de bénir son peuple dans la postérité d'Abraham, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Il y a des choses impossibles à Dieu, il ne peut pas mentir, il ne peut pas revenir sur sa promesse est aussi certaine, il s'engage, il a donné, il s'est impliqué par ce serment. La troisième chose que l'auteur souligne, c'est que nous avons une ancre qui est sûre et solide. Verset 19. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Cette ancre, c'est l'espérance que nous donne l'Évangile. Et l'auteur utilise l'image de l'Ancien Testament. On a parlé tout à l'heure de la construction du temple. Vous vous rappelez les différentes parties, il y avait le lieu saint, il y avait ce voile, il y avait le lieu très saint dans lequel il y avait l'arche de l'Alliance. Ce lieu où il y avait donc la présence de Dieu même. Et l'auteur ici parle du Seigneur Jésus-Christ, verset 20, quand il dit là, il parle de ce lieu, la présence de Dieu, verset 20, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Qu'est-ce qu'il dit ici? C'est que cette ancre, c'est comme si cette ancre avait été jetée dans le cœur même du Seigneur Jésus-Christ. Elle est attachée à nos cœurs par cette espérance de l'Évangile, mais elle est aussi attachée au cœur du Christ, de sorte que nous allions soit couler avec Christ, soit nager avec lui. Et l'auteur nous dit que nous ne sommes pas ancrés dans ce monde, mais nous sommes ancrés au ciel. Cette ancre, elle va au-delà du voile, elle va dans la présence de Dieu même. Nous sommes ancrés dans celui qui est entré dans la présence de Dieu le Père et qui se tient dans la présence de Dieu le Père comme notre représentant, notre substitut. Il est notre précurseur, nous dit l'auteur, dans le sens qu'il non seulement il ne se contente pas de nous guider ici-bas sur terre, mais aussi il nous tire vers ce monde à venir, vers la gloire céleste dans la présence de Dieu. Il est entré pour nous comme précurseur, et si nous sommes à lui, unis à lui par la foi, nous le suivons. Il est notre, celui qui est devant nous, et nous, nous le suivons. Et il est, cette ancre, elle est dans, fixée dans le lieu très saint, dans la présence de Dieu même. On l'a déjà dit la dernière fois, très rapidement, le Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu dans le monde pour lui-même. Il n'avait aucun besoin de venir dans le monde pour lui-même. Il n'est donc pas retourné au ciel pour lui-même. Non, il est venu dans le monde pour nous. Il est venu pour accomplir notre salut, pour nous réconcilier avec Dieu. Et il est retourné pour nous, il est retourné pour notre salut. Il est dans la présence de Dieu le Père et nous sommes attachés à lui, nous sommes unis à lui par cette foi, nous sommes attachés à lui par cette ancre. Et cette ancre ne sera jamais détruite. Et l'auteur nous dit qu'il est pour nous, notre souverain sacrificateur, pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. L'auteur va développer cela un peu plus en détail au chapitre 7, mais simplement brièvement. Melchisédek apparaît en Genèse chapitre 14. Et l'auteur nous dit qu'il apparaît de nulle part, et puis qu'une fois qu'il est venu auprès d'Abraham, il disparaît sans qu'on en entende parler plus loin, si ce n'est ici et dans d'autres passages du Nouveau Testament. Dans les premiers versets du chapitre 7, l'auteur dit ici, « En effet, ce Melchisédek était roi de Salem, roi de paix, sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, et il le bénit, et Abraham lui donna la dîme de tout. Ce Melchisédek est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Il est sans père, sans mère, sans généalogie, n'a ni commencement de jour, ni de fin, mais il est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. » Et il est une ombre de celui qui vient plus tard, c'est-à-dire du Seigneur Jésus-Christ, qui lui aussi apparaît dans ce monde. Il quitte la gloire, il quitte l'éternité, pour venir dans ce monde, et il repart dans l'éternité, où il est maintenant pour toujours, sacrificateur pour son peuple. Et nous sommes attachés à lui par l'ancre, par cette ancre, par cette foi, cette espérance de l'Évangile. Ce Jésus-Christ, nous dira l'auteur à la fin de cette lettre, est le même hier, quand il était sur terre, aujourd'hui, dans la présence de Dieu le Père, et éternellement, pour toujours, il ne change pas. Il ne cessera jamais d'être le sauveur de tous ceux qui croient en lui. C'est pourquoi, si nous avons cette ancre, si nous sommes ancrés en Christ, avec cette ancre qui est solide, qui est sûre, qui ne pourra jamais se briser, cette ancre que donne l'Évangile, si nous savons qu'il y a un acte impossible pour Dieu, à savoir qu'il ne peut pas mentir, il ne peut pas revenir sur sa promesse. Si nous savons que son plan est inchangeable, immuable, il va bénir son peuple en Jésus-Christ, dans la postérité d'Abraham. Alors, on peut s'avancer avec confiance vers l'inconnu, avec confiance vers ce qui, pour nous, reste encore inconnu. Dieu a promis de bénir son peuple dans la postérité d'Abraham. Cette postérité est le Seigneur Jésus-Christ. Et tous ceux qui sont unis à lui par la foi sont les héritiers, les co-héritiers avec Christ. Ils forment son peuple. et eux reçoivent cette bénédiction parce qu'ils sont en Christ. Et on peut être sûr que Dieu garde sa parole. Voilà les trois encouragements que l'auteur veut nous donner ici et auxquels il faut revenir sans arrêt même, surtout dans notre propre expérience, que Dieu a un dessein qui ne change pas. Il a promis de bénir en Christ et il bénit tous ceux qui viennent à Christ par la foi. Il ne peut pas revenir sur sa parole. Il s'est même engagé par un serment. Et il nous donne cette ancre qui est fixée dans la présence même de Dieu. Et un jour, et Christ est pour nous notre précurseur. Et si nous sommes unis à lui, un jour nous serons avec lui dans la gloire. Regardons toujours plus, méditons toujours plus sur ce que Dieu a fait en Christ, afin d'être encouragés et de pouvoir avancer dans notre vie et dans notre pèlerinage sur terre. Que Dieu nous aide donc à comprendre et à nous réjouir dans sa parole et dans ses promesses. Amen.